Octave Mirbeau, L'école de l'assassinat. Je suis allé dimanche dans un village des environs de Paris dont c'était la fête patronale. Sur la grande place décorée de feuillages, d'arcs fleuris, de mâts pavoisés, étaient réunis tous les genres d'amusements en usage dans ces sortes de réjouissances populaires. Et sous l'œil paternel des autorités locales, une foule de braves gens se divertissait. Ah, quels braves gens! Les chevaux de bois, les montagnes russes, les balançoires n'attiraient que fort peu de monde. En vain les orgues nasillaient les airs les plus gais, les plus séduisants ritournelles. D'autres plaisirs, mieux appropriés au goût moderne, requéraient cette foule en fête. Les uns tiraient à la carabine ou à l'arbalète sur des cibles figurant des visages humains, les autres assommaient à coups de balle des marionnettes rangées sur des barres de bois. Ceux-là frappaient à coups de maillet sur un ressort qui faisait mouvoir un marin français, lequel allait transpercer de sa baïonnette à l'autre bout d'une planche la poitrine d'un lamentable chinois. Partout, sous les tentes et dans les petites boutiques illuminées, des simulacres de mort, des parodies de massacres, des représentations d'hécatombes. Et ces braves gens étaient heureux. Je remarquais même que ces divertissements pacifiques ont depuis quelques années pris une extension considérable. La joie de tuer est devenue plus grande à mesure que les mœurs vont s'adoucissant. Car les mœurs s'adoucissent, du moins, les plus éminents chroniqueurs l'affirment. Aussi l'imagination des forains, sous l'influence de cette douceur, en est-elle arrivée à donner au jeu champêtre une exclusive apparence de vrai meurtre, qui est bien plus engageante et louable. C'est charmant. Autrefois, alors que nous étions encore des sauvages, sans doute, les tirs dominicaux étaient d'une pauvreté, d'une froideur répugnante. Il manquait vraiment de suggestion. On ne tuait que des pipes et des coqs d'œufs, dansant au bout des jets d'eau. Dans les établissements les mieux installés, il y avait bien des oiseaux, mais ils étaient de plâtre, et le plâtre, il faut le reconnaître, ne donne pas la moindre illusion du sang. Tuer du plâtre, ce n'est pas tuer de la vie, c'est même ne rien tuer du tout. Le plâtre ne se tord pas, ne râle pas. On ne peut obtenir de lui quelque chose qui ressemble à une convulsion d'agonie. Quel régal à cela, je vous le demande. Aujourd'hui, le progrès est venu. Il est loisible à tout honnête homme de se procurer, pour deux sous le coup, l'émotion délicieuse et civilisatrice de l'assassinat. Encore y gagne-t-on, par-dessus le marché, des assiettes peintes et des vases de verre coloriés. Aux pipes, aux oiseaux, à ces objets inertes, qui se cassent bêtement sans rien vous suggérer, on a substitué des figures d'hommes, de femmes, d'enfants, soigneusement habillés. Puis on a fait remuer ces figures, on les a fait marcher, et au moyen d'un ingénieux mécanisme, elles se promènent, vous fuient, seules ou par groupe. On les voit apparaître dans un paysage en décor, escalader des murs, entrer dans des donjons, dégringoler par des fenêtres, sortir par des trappes. Elles fonctionnent comme des êtres réels, ont des mouvements du bras, de la jambe, de la tête. Vraiment, on peut s'imaginer qu'elles ont une âme, une intelligence, qu'elles sont vivantes. Enfin, quelques-unes prennent des attitudes pathétiques, elles semblent dire « Grâce, ne me tue pas !» La sensation est exquise de penser que l'on va tuer des choses qui bougent, qui avancent, qui semblent parler, qui supplient. En dirigeant contre elle la carabine ou le pistolet, il vous vient à la bouche comme un petit goût de sang. Aussi, quelle joie quand la balle décapite ses semblants d'hommes. Quel trépillement lorsque la flèche crève les poitrines de carton et couche par terre les corps inanimés dans des positions de cadavres. Chacun s'excite, s'encourage, s'acharde. On n'entend que des mots de destruction et de mort. Crève-le, il a son affaire. Vite à l'œil, ce cochon-là. Autant il reste indifférent, sans passion, devant les canons et les pipes. Autant il s'exalte si le but est représenté par une figuration humaine. Les maladroits sans colère, non contre leur maladresse, mais contre la marionnette qu'ils ont manquée. Ils la couvrent d'injures ignobles, la traitent de lâche lorsqu'elle disparaît derrière la porte du donjon. Viens, dis donc ! Et il recommence à tirer dessus, avec rage, jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Examinez-les. En ce moment, ce sont bien des assassins, mus par le seul désir mystérieux de tuer. L'abrut homicide qui, tout à l'heure, dormait au fond de leur être, s'est réveillé, fatal et farouche, devant cette illusion qu'ils vont détruire quelque chose qui vivait. Car pour eux, le petit bonhomme en carton, qui passe et repasse n'est plus un joujou, un morceau de matière inerte sur lequel doit s'exercer leur adresse. À le voir passer, repasser, inconsciemment, il lui prête une chaleur de circulation, une sensibilité de chair, une pensée, une volonté, toute chose qu'il est si âprement doux d'anéantir, si délicieusement féroce, de sentir s'égoutter par des plaies que vous avez faites. Ils vont même jusqu'à le gratifier d'opinions politiques ou religieuses, qu'ils abhorrent, afin d'ajouter une haine particulière à cette haine générale de la vie, et doubler ainsi d'une vengeance savourée l'instinctif plaisir de tuer. Mais examinez-les. Dans leurs yeux, lui, la folie hideuse du meurtre. Ah, ils s'amusent, je vous en réponds, ces braves gens. Lorsque je lis quelque part qu'un homme a été condamné à mort parce qu'il a tué, cela me semble toujours une chose extraordinaire et d'une déroutante injustice. Je comprendrais qu'on condamne à mourir les gens qui se refusent à tuer. Ce sont des réfractaires au devoir social. Mais guillotiner ceux qui tuent, n'est-ce pas d'un illogisme et d'une prétention qui confine à la folie en une société telle que l'on fête les lois, les habitudes, les éducations, les religions? Le besoin de tuer naît chez l'homme avec ce besoin de manger et se confond avec lui. Ce besoin instinctif, qui est la base, le moteur de tous les organismes vivants, l'éducation le développe au lieu de le réfréner. Les religions le sanctifient au lieu de le maudire. Tout se coalise pour en faire le pivot sur lequel tourne la société. Dès que l'homme s'éveille à la conscience, on lui insuffle l'esprit du meurtre dans le cerveau. Le meurtre grandit jusqu'au devoir, popularisé jusqu'à l'héroïsme, l'accompagnera dans tous les stades de la vie. On lui fera adorer des dieux dont les distractions se plaisent au cataclysme et qui fauchent les peuples comme des champs de blé. On lui fera respecter que des héros, tout rouges de sang humain. Et les vertus par où il s'élèvera au-dessus des autres, par quoi il espérera conquérir la gloire, la fortune, l'amour comme le courage par exemple, s'appuieront uniquement sur le meurtre. Il trouvera dans la guerre la suprême synthèse de l'éternelle et universelle folie du meurtre régularisé, bureaucratisé, du meurtre obligatoire, considéré comme une nécessité à laquelle il n'a pas le droit de se soustraire, du meurtre vers lequel il ne se sent pas entraîné par l'assouvissement d'une vengeance, d'un vice, la satisfaction d'un intérêt ou l'horrible joie d'un plaisir physiologique. Du meurtre, enfin, qui est une fonction sociale. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, toujours il verra ce mot « meurtre » immortellement inscrit au fronton de ce vaste abattoir qui s'appelle l'humanité. Alors, cet homme à qui vous avez inculqué le mépris de la vie humaine, que vous vouez à l'assassinat quand c'est votre bon plaisir, Pourquoi voulez-vous qu'il recule devant le meurtre, quand c'est son intérêt de tuer? Au nom de quel droit, de quel principe, la société va-t-elle condamner des assassins comme Pranzini et ce terrible Ilios, qui n'ont fait en réalité que se conformer aux lois homicides qu'elle édicte et suivre les exemples sanglants qu'elle nous donne? Ces bandits, du moins, avaient une excuse supérieure à celle que pourraient invoquer Napoléon et Bismarck. Nous n'avons pas fait les lois, dirait-il. Nous ne sommes pour rien dans les constitutions sociales. Qu'est-ce que vous voulez? Un jour, vous nous dites de tuer. Vous nous forcez à assommer un tas de gens que nous ne connaissons pas, contre lesquels nous n'avons pas de haine. Et plus nous tuons, plus vous nous décorez. Et un autre jour, confiant dans votre protection, nous égorgeons des êtres parce que nous détestons, désirons leur argent, leurs femmes, que sais-je. Nous avons une raison enfin. Et vos gendarmes viennent vous arrêter. Hier, cela vous plaît, aujourd'hui, cela vous déplaît. Ben, il faudrait pourtant s'entendre. Le Figaro, 23 juin 1889.